quand un deuil survient, t'es dans une dépossession. Pour l'avoir vécu également, t'as l'impression de plus du tout être au contrôle. Donc en fait, tu te laisses un petit peu porter comme une mère agitée. T'es quand même, je trouve, très cadré, canalisé. On te dit qu'il faut aller voir telle personne, qu'il n'y a pas vraiment d'options, ça se passe comme ça. En vrai, tu subis les événements si c'est pas du tout anticipé. Et donc tu perds toute imagination parce que il y a la tristesse et parce qu'il y a d'autres priorités qui vont rentrer en jeu. D'où, je pense, l'idée d'anticipation et donc d'information.
Totalement. Non, c'est très bien résumé. Est-ce que tu as une idée de combien de temps on a officiellement, par la loi, entre le jour du décès et l'inhumation ou la crémation ?
Non, absolument pas.
Depuis juillet 2024, il est passé de 7 jours à 14 jours. Je vais être sur un détail pratique. Il y a un délai quand même assez court de 4 jours avant une mise en bière. Parce que il y a la question de est-ce qu'on fait des soins au corps ou pas, est-ce qu'on veut l'exposer ou non, etc. Bon, je dis ça, c'est parce que parfois on est un peu précipité à devoir fermer un cercueil. Ça ne veut pas dire qu'on va faire tout de suite derrière une célébration. Donc ça, c'est important à savoir, parce qu'effectivement, par manque de connaissances, et parce que les gens ne veulent pas en parler, et parce qu'il y a le tabou, on est toujours là-dessus, on se laisse embarquer. Alors il y a une réglementation qui est stricte, oui. On n'a pas le choix de mettre le corps ailleurs que dans un cercueil, c'est la loi. On ne peut pas le transporter à visage découvert, au sens sans cercueil, moins de 4 jours du décès, enfin plus de 4 jours du décès. On ne peut pas le mettre en pleine terre et attendre que ça le fasse tout seul. Les soins de conservation ne sont pas obligatoires. Il y a plein de choses comme ça que les gens ne savent pas. Et en plus, effectivement, il y a le chagrin, il y a le sentiment de panique, le sentiment de vouloir bien faire. Et donc tout ça, ça précipite, ça fait un peu le lit, malheureusement, d'une industrie funéraire.
Complètement.
Alors, je ne vais pas généraliser, je tiens à le dire, parce qu'il y a certaines entreprises de pompes funèbres que je vais appeler classiques, qui sont très compétentes et qui font vraiment bien leur travail et qui ne sont pas dans la précipitation du tout. En revanche, on a quand même un modèle économique avec des grandes marques et des fonds de pension derrière qui possèdent la majorité du marché, qui profitent un peu de ça. Et donc de la précipitation, faire des choix et puis avoir un devis qui finit 5 000 euros minimum.
Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de concurrence. Donc c'est maintenant le rapport qualité-prix et surtout la prestation qui sera allouée et qui fera la différence par rapport à la concurrence.
Le business de la mort, l'un des rares secteurs qui ne connaîtra jamais la crise. Le business du funéraire représente plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et pour les professionnels de la mort, l'avenir s'annonce radieux. Chaque année en France, environ 540 000 personnes passent de vie à trépas. Dans 30 ans, il y en aura plus de 700 000. Un marché en pleine expansion qui jongle en permanence avec deux tabous, la mort et l'argent.
Vous avez accompagné une famille, vous avez engagé du temps, mais il est normal que tout travail à un moment mérite salaire.
La mort est devenue un commerce comme un autre. Un business auquel les Français s'intéressent souvent trop tard. Ils ont de 20 à 50 ans et plus de la moitié sont des femmes. S'ils se tournent vers le marché de la mort, c'est que le secteur est créateur d'emplois et plutôt bien payé. Comment accompagner les familles tout en vendant des prestations en douceur, sans choquer ?
Les soins. Si on vous demande c'est quoi les soins ?
Moi j'ai mis que cela permettait de garder une belle image du défunt avant les obsèques.
Tout bêtement.
Et voilà comment vendre avec élégance une opération qui consiste à injecter du formol dans le corps du défunt. Ces soins, facultatifs, peuvent être facturés jusqu'à 500 euros.
C'est vrai qu'il y a un côté commercial qu'il ne faut pas, on va pas le nier. Ce que je dis à ces stagiaires, c'est proposer tout ce que vous avez à proposer.
Messieurs, dames, bonjour. En quoi puis-je vous être utile ?
Donc, comment aller contre ça ? La première chose, c'est ouvrir le sujet le plus tôt possible dans sa vie. Et dire, en parler à ses proches, signer un contrat d'obsèques, si possible avec une structure de type coopérative funéraire, on va en reparler. En tout cas, une société qui, auprès de qui on aura discuté et qui se sera, on se sera assuré qu'ils sont dans un respect de certaines valeurs. Donc déjà, ça, ça enlève de la pagaille le jour J. Parce que si tout
la
est
précipitation,
prêt, la précipitation. Ouais, ouais. Tout est prêt à l'avance. Les enfants, les descendants, les ceux qui doivent gérer, eh ben, ils savent faire. Ils prennent, ils n'ont plus qu'à suivre le mode d'emploi. Et du coup, ça laisse toute la place pour faire la célébration dans un délai cohérent et de se laisser l'opportunité de pouvoir le faire comme on le souhaite vraiment. Alors après, on est un peu coincé parfois par des choses matérielles. Par exemple, si vous décédez à Toulouse Métropole et que vous voulez être crématisé, petit clin d'œil, on ne dit pas incinéré, parce que incinéré, c'est, je dis ça parce que les gens font beaucoup l'erreur souvent, c'est les ordures qu'on incinère.
D'accord.
Voilà, on parle d'incinération des poubelles. Mais... Donc, si vous voulez être crématisé...
Quoi qu'il y a certaines ordures, hein, quand même.
Oui. Ça pourrait faire un sujet.
Ouais, ça
Il y a deux gros crématoriums dans la métropole. Celui qui a été construit dans les années 70 à Corne-Barieux. Et un récent, qui a 2-3 ans d'existence, vers Saint-Aurens. Celui de Corne-Barieux, malheureusement, c'est un peu une usine. Il y a deux chambres de crémation. Parfois, il y a deux crémations en même temps. Wow. Et c'est un truc tous les quarts d'heure, les jours de gros trafic. Alors là, la famille, elle n'a pas le choix. Alors, il faudra qu'elle prenne ce parti pris de... On fait une célébration vite fait, mais par contre, on fera quelque chose avec les cendres. Et la célébration arrivera après. Quand il y a une inhumation, c'est un petit peu moins précipité, parce qu'on peut, le temps de... on peut prendre le temps de faire une célébration au funérarium ou ailleurs, d'ailleurs. Ce n'est pas obligatoirement dans un funérarium. Avant d'aller au cimetière. Aujourd'hui, ce sont les deux alternatives possibles. Ce qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'on choisisse de faire, on a le temps.
Tu as parlé un petit peu de ces modèles non industriels, moins normatifs du funéraire. Tu as cité la coopérative funéraire occitane.
Je vais d'abord rappeler c'est quoi qu'est-ce qu'une coopérative funéraire tout court.
Tout à fait.
C'est un modèle qui existe, qui a vu le jour... essentiellement au Québec. Alors, je sais plus l'origine exacte, mais c'est vraiment au Québec, ça existe depuis une vingtaine d'années. La proportion d'entreprises de pompes funèbres au Québec par rapport aux coopératives funéraires, on a à peu près 50% de pompes funèbres classiques et 40% de coopératives funéraires. Donc c'est très très important. En France, je revois mes chiffres, mais on a quelque chose d'un peu moins de 5000 points de vente agences funéraires. On a 12 coopératives funéraires. Donc on en est loin. La coopérative funéraire, c'est ni plus ni moins une entreprise de pompes funèbres qui vend des services de pompes funèbres, mais en mode coopératif. Donc ce sont souvent des SCIC, enfin SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui sont montées derrière ça, avec ce principe coopératif que n'importe qui peut devenir sociétaire de la coopérative, moyennant souvent une somme vraiment modique. Voilà, c'est ça. Un sociétaire, une voix. Hein, tout le monde partage tout. Il y a ensuite une équipe désignée qui sont les salariés de la coopérative pour faire les services de pompes funèbres. Donc elles ne sont pas toutes équipées de la même manière, mais in fine, vous pouvez très bien leur confier vos obsèques, de bout en bout. Soit elles font tout elles-mêmes, soit elles sous-traitent une partie. Mais vous pouvez très bien tout leur confier.
En participant à des cafés mortels, j'ai ressenti une grande libération de la parole. J'ai ressenti également le pouvoir du groupe, de parler avec les groupes.
J'étais surprise, parce que je me disais que c'est un sujet qui n'intéresse plus. Et au contraire, je me suis aperçue que ça intéressait bien plus que ce que je pensais. En écoutant les gens, on s'aperçoit qu'il faut tout changer, parce qu'en réalité, c'est les services funéraires, c'est l'accompagnement de la mort qui pose question. Mais comment on peut faire ? Et il a découvert qu'au Québec, au Canada, ils avaient, depuis 30 ans, ils avaient créé des coopératives funéraires.
C'est une activité qui n'est pas comme les autres. Et ça me semblait important qu'en France, il puisse y avoir une approche qui soit complètement différente sur l'organisation et qui soit une organisation qui soit vertueuse dans sa structuration dès le départ.
Il me semblait qu'on devait sortir d'un système marchand et commercial pour la mort. On n'était pas... Les funérailles, ce n'était pas... vendre en fait de la marchandise, c'était dire adieu à quelqu'un qui s'en va.
Il y avait aussi une volonté aussi de changer de regard sur la mort. On aurait pu faire une pompe funèbre sous forme coopérative, mais c'est pas que ça. On va faire des funérailles qui sont uniques, qui sont pas comme les autres, et on va vous accompagner pour faire quelque chose de complètement différent. Et nous, on va se mettre à votre service pour construire quelque chose avec vous. On va prendre le temps qu'il faut, on va prendre l'énergie qu'il faut, et puis voilà, on va être dans cet aspect créatif.
La grande différence avec les pompes funèbres dites classiques, et c'est là où le modèle économique est différent, c'est qu'il y a toute une préoccupation éco-responsable très avancée. Ouais.
Qui est mis en avant.
Qui est mis en avant. Une préoccupation économique, avoir des obsèques à moins de 2000 euros ou de 2500 euros, si vraiment c'est pas possible, parce qu'après il y a des prix en dessous desquels les structures ne peuvent pas descendre, il faut bien qu'elles vivent. Et puis ce rôle qu'elle s'attribue d'ouvrir des espaces de parole pour informer, faire savoir. Et comme ce sont des sociétés d'intérêt collectif, généralement, on a dans le pool des administrateurs des parties prenantes de la collectivité. Typiquement, si je prends la coopérative de Rennes ou de Bordeaux, ou de Nantes même, elles ont respectivement la collectivité qui est aussi sociétaire à petite échelle. Mais parce qu'elles sont parties prenantes, elles ont un rôle à jouer, ne serait-ce que parce qu'elles opèrent un crématorium dans la zone, dans le territoire. Donc ça, c'était pour poser la définition d'une coopérative funéraire, et je vous invite vraiment, chers auditeurs, à vous y intéresser, parce que tout se joue là, dans ce que ça agrège d'idées nouvelles sur le funéraire alternatif. Si je reviens à celle de Toulouse, c'est une association qui s'appelle en fait « Et si on mourait autrement ?» qui s'est créée il y a 3 ans à l'initiative d'un petit collectif avec un objectif au tout départ de créer une véritable coopérative funéraire telle que je viens de la définir. Sauf que les fondateurs historiques qui avaient ce projet-là sont partis sur d'autres projets. Et donc l'association dont je fais partie tient à garder son statut de coopérative funéraire pour rester associée au mouvement. Aussi parce qu'il y a une fédération française des coopératives funéraires qui s'est créée, qui agrège toutes celles qui sont basées en France, et qui réfléchissent ensemble, qui partagent leurs pratiques, etc. Et donc, à Toulouse, le parti pris à ce stade, c'est de dire, on va voir la métropole, le pôle funéraire public de Toulouse Métropole, et on leur propose de travailler avec eux, pour leur ouvrir les yeux sur des nouvelles pratiques, et leur proposer des projets. Et ça a fonctionné. J'ai 2 exemples. Dans le gros cimetière historique de Toulouse qui s'appelle Terre Cabade, qui est un peu le Père Lachaise toulousain, hein, pour ceux qui sont déjà allés se balader dedans. Dans ce gros cimetière, la coopérative funéraire occitane a permis l'installation d'une halte de recueillement. Donc c'est un coin qui est paysager, qui est très beau, et qui permet d'aller se poser, méditer. Si on a besoin de se recueillir, même si le défunt pour lequel vous voulez vous recueillir n'est pas présent dans ce cimetière. Et puis, autre initiative un peu plus récente et que je trouve magnifique, c'est d'avoir décidé d'investir un des coins du cimetière qui n'était pas encore, qui était en friche. Probablement que ce coin-là aurait été investi avec des caveaux classiques et des allées à nouveau bétonnées et assez peu de végétales dans tout ça. Et ils ont été un peu poussés par la coopérative funéraire à installer une forêt sanctuaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont réinvesti le coin avec des arbres, et puis même modèle économique que des concessions, mais au lieu d'avoir des emplacements avec des caveaux, au pied d'un arbre, vous imaginez qu'on va découper en camembert le pied d'un arbre, chaque part de camembert est un espace qu'on peut se réserver comme un caveau, comme une concession. Et c'est là qu'on pourra venir enterrer votre urne biodégradable avec une petite plaque ou pas. Et ça, ce modèle-là, il est en train de se développer pour pouvoir revenir à des pratiques écologiques. Et donc, la coopérative funéraire occitane, ça marche, main dans la main avec le pôle public.
Derrière les pierres tombales, le colombarium et les carrés funéraires, une petite forêt cinéraire a vu le jour l'an dernier dans ce cimetière. 14 inhumations ont déjà eu lieu au pied de ces arbres depuis janvier, dans un site sans plaques ni fleurs. Accompagner les familles endeuillées au mieux, c'est ce que fait la Batelière, une coopérative funéraire qui s'inscrit dans une démarche écologique. Un livret des volontés funéraires est mis à disposition des clients. Ils peuvent y détailler leurs souhaits, y compris inhabituels, et vouloir limiter leur impact sur la planète.
On va expliquer les possibilités actuelles. Par exemple, privilégier une toilette quand c'est possible, en fait, plutôt que des soins de conservation. Un cercueil qui n'aura pas été traité, avec du bois dans la mesure du possible qui arrive de France, etc.
L'occasion aussi d'en savoir plus sur le droit funéraire. Contrairement à ce que l'on croit souvent, les cendres des défunts peuvent être dispersées en pleine nature, à condition qu'elles soient à distance des voies publiques.
C'est un vrai problème de place. Il y a d'autres métropoles en France pour qui c'est vraiment problématique parce qu'ils ont des terres un peu humides. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de place dans un cimetière ? Je rentre dans des détails intéressants. On va faire ce qu'on appelle des réductions. C'est-à-dire qu'on prend des sépultures avec l'accord des familles pour que ça prenne moins de place sous forme d'ossuaire. Et puis après, il y a toutes les concessions abandonnées.
Ouais, dégradées.
Dégradées, souvent, on vous oublie en fait. Hein,
ouais,
c'est ça, hein, il y a des... Il faut savoir qu'au bout de 2 générations et demie, vous serez oublié. Hein.
À moins de s'appeler
Victor Hugo. Ouais. À moins d'avoir fait un truc vraiment mémorable. Bah, il faut récupérer de l'espace. Sauf que la loi vous interdit de récupérer l'espace si le corps n'est pas complètement décomposé. Alors en moyenne, c'est 5 ans. Mais ça arrive qu'au bout de 5 ans, ça ne soit pas assez décomposé pour qu'on puisse sortir le truc. Et donc, quand les terres sont humides, ben, ça ne se décompose pas bien. Donc ils referment et ils attendent. Donc on ne peut rien faire en fait, d'espace qui sont là. Donc c'est un vrai sujet que de trouver ces alternatives aux concessions, aux caveaux et aux espaces comme ça dans les cimetières. Parce que les cimetières, la plupart, n'ont plus de place. C'est vraiment un gros problème. Et en plus, on ajoute à ça la grosse opposition des anciennes générations qui veulent des cimetières tout propres, tout jolis, bien désherbés, et puis ceux qui sont pour le respect du vivant et le zéro pesticide. Et à compenser par les mairies elles-mêmes qui veulent faire du zéro pesticide. Alors voilà. Les forêts sanctuaires, c'est vraie alternative. En attendant qu'on parle de l'humusation. On a fait des cafés mortels où on parlait que de ça, par exemple.
L'humus, c'est la terre.
Ouais.
C'est ça.
En gros, c'est faire du compost
humain. Du compost, ouais, complètement. Ouais.
Voilà. C'est du compostage humain. bah ouais.
C'est un épisode, on dirait, d'une dystopie.
Oui, ça pourrait être ça. Pourtant, c'est bien concret.
Ça fait pousser les végétaux, ouais, pareil.
Oui.
Ouais.
On fait de l'engrais, quoi.
On fait de l'engrais.
On recycle.
C'est génial.
Bah, moi, je m'imagine bien, hein, ouais, au pied d'un arbre pour lui donner de la vie.
Déjà, pour le potager.
Oui. Ça existe déjà donc, dans certains États aux États-Unis. Ça existe aussi, si je ne me trompe pas, en Allemagne. Où c'est légal. Bon, c'est pas du tout légal en France.
Et on fait pareil, un corps, un petit peu de petit bois, tout
ah bon, ça, là, c'est ça, un broyat.
Ainsi de suite,
exactement. Il y a un broyat de bois. Aux États-Unis, ça se passe comme ça. En fait, les sociétés qui développent ça, elles ont créé des espèces de capsules dans lesquelles bah, y a un broyat. On va poser le corps dessus. On va le recouvrir encore de broyat. Et ensuite, dans la capsule, c'est maintenu à un certain degré d'humidité et de température qui fait que le corps va se décomposer assez rapidement.
C'est pas 5 ans, là, pour le coup.
Non,
voilà.
Non, je crois que c'est de l'ordre de moins d'un mois.
Ouais, c'est ça. Il faut...
Jusqu'à ce que bah, ça revienne à un état décomposé. Ouais, et voilà. Donc après, on fait un peu de tri avec tout ce qui aurait été pas naturel dans le corps, parce que ça arrive. Et puis, et ça peut revenir à la terre. Et ça, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent.
C'est vraiment le retour à la terre, là, pour
oui.
le coup.
Oui. Quand on fait des cafés mortels sur ce sujet, c'est 30-40 personnes qui peuvent se présenter, et pas que des jeunes. Il y a beaucoup de personnes âgées qui se questionnent vraiment pour leurs obsèques, qui s'intéressent au format, qui râlent que ça ne soit pas encore légal en France. Mais ça fait son petit chemin.
La superficie à peu près de la forêt sanctuaire, c'est pour l'instant un demi-hectare. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 31 personnes qui sont mises en terre et 87 réservations.
Ici, à Mutterscholz, les personnes sont inhumées dans des urnes en matériaux naturels, comme de la pierre ou de la céramique, donc elles consomment peu de ressources. Pourquoi on ne peut pas mettre des urnes biodégradables ?
C'est dans la loi française, pour l'instant, qu'il y a cette obligation d'exhumation.
Ça veut dire que la loi française garantit que les cendres doivent pouvoir être déterrées. Et en plus, pas de décoration, pas de fleurs. L'idée, c'est vraiment de laisser la nature la plus sauvage possible.
Il y a une diversité d'oiseaux. Et puis, vous avez vu les couvre-sols. Le couvre-sol, c'est magnifique, c'est cette taille des ours. Vous revenez dans 15 jours, ça embaumera. C'est quelque chose de merveilleux et de naturel. Ce sont des arbres inscrits comme arbres remarquables. Parce que la forêt ne sera pas retravaillée, la forêt ne sera pas réexploitée. Quelque part, c'est grâce aux personnes qui sont dans cet espace que les arbres vont être protégés parce que c'est une forêt sanctuaire qui ne sera plus livrée à la tronçonneuse ni à la hache.
Les forêts sanctuaires, il y en a 4 qui existent en Alsace. C'est très très développé en Alsace parce que ça existe depuis 25 ans en Allemagne. Donc par effet de frontalier, ça s'est beaucoup étendu en Alsace. Et il y a aussi une forêt en Haute-Garonne, sur la commune d'Arbas, qui était très précurseur. C'est deux femmes qui ont monté ça. Elles ont fait ça il y a déjà 5 ou 6 ans, avant le Covid même. Et puis elles ont eu des problématiques réglementaires, parce qu'elles sont allées trop vite en fait. Et là, j'ai cru comprendre qu'elles pouvaient à nouveau avoir une activité et que c'était déjà pris en compte par la collectivité locale et qu'il y avait une vraie alternative possible. C'est tout ce mouvement de fond que les coopératives funéraires et le funéraire alternatif va venir défendre.
Il a un combat dans la vie, Michel, c'est de détruire le monopole. Michel d'abord s'entraîne, il va attaquer le monopole des pompes à essence. Il va le détruire et réussir avec brio. Et il s'attaque ensuite au monopole des pompes funèbres. Alors Michel, il a un avantage pour s'attaquer à ça. Il a aussi un nom de famille qui peut un peu l'aider puisqu'il s'appelle Michel Leclerc. Il fait partie de la grande famille Leclerc. Et Michel est l'oncle de Michel-Édouard Leclerc, qui détient les supermarchés Leclerc aujourd'hui. Michel-Édouard Leclerc étant le fils de Édouard Leclerc, qui a fondé la chaîne de magasins de grande distribution. Donc ça aide d'avoir une famille et un capital aussi puissant pour s'attaquer à un monopole. On s'attaque avec une certaine sécurité derrière soi. Et il a aussi quelque chose qui aide un peu, c'est qu'il a le téléphone portable de François Mitterrand. Et obtenir de lui, en 1993, la loi d'un sénateur socialiste qui s'appelle Jean-Pierre Sueur. Une loi qui acte la fin du monopole des PLG en France. L'objectif de la loi, c'est d'ouvrir le marché à la concurrence et de faire en sorte que les familles puissent choisir librement leur opérateur funéraire, que PLG ne s'impose pas à elles. Donc ça veut dire que Michel Leclerc, par exemple, lui, il a fondé sa propre entreprise, Rock Éclair, et ça lui permet d'avoir une brèche, et en tout cas d'avoir une liberté qu'il n'avait pas avant. Maintenant, tout opérateur funéraire peut exercer, et c'est aux familles que de choisir l'opérateur qui leur convient le mieux. Alors le marché funéraire, il s'est un petit peu reconfiguré depuis cette loi Sueur de 93. L'entreprise PFG va toujours pas très bien. Hein. Ils ont toujours 35% du marché. Le deuxième grand groupe du funéraire, c'est le groupe Funécap, dans lequel il y a Rock Éclair, l'entreprise de Michel. Ça, c'est les deux gros mastodontes du funéraire. C'est plus un monopole, mais c'est ce qu'on appelle un oligopole. C'est-à-dire qu'il y a deux gros groupes qui maîtrisent la moitié du secteur. Et vous avez après une armée d'indépendants qui vivotent un petit peu, qui n'ont pas du tout une clientèle qu'ils espéraient suite à la loi Sueur. Ils subissent toujours la mainmise qu'ont les grosses entreprises. Et il y a aussi, nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est un petit mouvement qui se développe depuis une dizaine d'années en France, c'est le mouvement des coopératives funéraires. Il y en a 20 en projet, il y en a 7 qui sont déjà en train d'exercer. Une coopérative funéraire, c'est l'entreprise qui a un statut de SCIC, une société coopérative, c'est-à-dire où les agents funéraires ont des parts partagées avec les usagers qui peuvent investir en achetant des actions dans l'entreprise, donc par exemple les endeuillés, qui ont accès au conseil d'administration des entreprises, donc il y a une gestion un peu commune. Ces entreprises mettent aussi en avant un accompagnement des familles de A à Z, avant et après le deuil, un plus grand accompagnement, un plus grand suivi des familles, par exemple. Et les coopératives funéraires militent aussi pour libérer la parole sur la mort en mettant en place ce qu'on appelle des cafés mortels. Café mortel, c'est se réunir dans un bar, dans un café, pour parler de la mort assez librement et essayer de remettre un peu la mort au centre de la cité.
Alors d'ailleurs, à propos d'universalité, intéressez-vous au collectif qui s'appelle la Sécurité sociale de la mort. C'est deux profs dans le nord de la France, deux copains, qui se sont dit, après avoir vécu des cérémonies d'obsèques un peu pris en otage, comme on décrivait tout à l'heure, ils se sont vraiment questionnés sur mais comment on peut rendre les choses universelles, au sens accessible, citoyenne, pour tous. Vraiment dans cette notion de faire commun, quoi, au sens politique pur du terme. Ils se sont intéressés à comment avait été créée la sécurité sociale de la santé, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ils se sont dit, mais pourquoi pas l'appliquer à la mort, à la fin de vie? On l'utilise bien pour la naissance. Et donc, ils ont écrit un bouquin qui est sorti il y a quelques mois. Ils militent vraiment pour ça. Ils vont régulièrement à l'Assemblée pour se faire entendre, en particulier aux alentours de la Toussaint. Alors plus récemment, on avait aussi tout le débat autour de l'aide à mourir, avec tout ce que nous, en tant que professionnels du sujet, travaillons beaucoup sur la question, tous les trous dans la raquette qu'on va avoir face à cette loi, parce qu'elle est incomplète à bien des égards sur le respect des libertés. Typiquement, on a l'association Ultime Liberté, qui est vraiment un partenaire fort de la coopérative funéraire occitane. Ultime Liberté, c'est une association nationale qui a son antenne à Toulouse, qui milite pour le droit à mourir, mais quelle que soit la situation de la personne qui veut mettre fin à ses jours. Quelqu'un qui n'a qu'à plus envie de vivre, même s'il n'est même pas malade et même s'il n'est pas vieux. Et il y en a des gens comme ça, qui veulent bien vivre, mais pas cette vie-là. C'est assez terrible à dire, mais ça existe. Et leur parti pris, c'est de dire, mais on pourrait s'éviter des traumatismes avec des gens qui se donnent la mort de manière violente, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le faire. Et que s'ils avaient le choix, en conscience, partagé avec leurs proches, alors, bien sûr, il y a de la douleur, bien sûr, il y a du chagrin et de l'incompréhension et tout ce que ça peut générer psychologiquement. Mais il y a d'abord le respect de cette ultime liberté. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'on a le droit de choisir, c'est la manière dont on veut mourir. C'est sa liberté à soi. Ça ne rempiète pas sur la liberté des autres, la façon dont on va mourir. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.